Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Situation environnementale. Il en sera question avec la tenue cette semaine du congrès sur l'eau et l'assainissement et le forum sur l'environnement. Il sera question de la visite du Premier ministre à Mopti et de celle du président de la République à Kuchala. Et enfin, on parlera du plan de réponse humanitaire 2018 avec nos confrères Yoroso de l'Inter de Bamako, Paul Nguessam de Mali Horizon, Amidou El Hadj Touré de Mali Média et au téléphone Mamadou Djadje Sako RFM. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation du forum de la presse d'aujourd'hui.
Le grand dialogue.
Le 19e congrès de l'eau et de l'assainissement s'est tenu à Bamako cette semaine, tenu aussi cette semaine de la 7e édition du Forum environnemental national à Bamako et pour améliorer l'accès à l'électricité dans le pays, la Banque islamique de développement a alloué plus de 97 milliards de francs CFA au Mali pour la construction de la centrale thermique de Sirakoro qui doit fonctionner avec du fioul lourd. À cet effet, nous allons écouter pour les défis de l'environnement le docteur Togola de Mali Folk Center.
Aujourd'hui, avec les perturbations climatiques, on ne sait pas quand on va s'aimer, on ne sait pas si jamais on va récolter, parce qu'on ne suit plus la pluviométrie. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut une nouvelle école et il faut aller sur des pratiques anciennes qui nous amènent maintenant dans l'innovation et la créativité. Et donc, ça devient un impératif de revoir nos modes d'éducation, nos modes de planification et nos modes de conception pour maintenant prendre en compte des nouvelles dimensions beaucoup plus holistiques, beaucoup plus larges pour pouvoir vraiment aller de l'avant.
En parlant d'opportunités, est-ce que vous pensez à des emplois verts qui pourraient être créés pour des jeunes?
Exactement. Donc maintenant, dans cette innovation, c'est maintenant des nouveaux métiers qui émergent, c'est des nouvelles opportunités pour la jeunesse, des nouvelles opportunités pour l'Afrique dans lesquelles nous pouvons aussi commercialiser, développer, diffuser dans le monde entier. Donc c'est ça l'opportunité climatique que nous devons choisir. Kankou Moussa ou d'autres disent Mansa Moussa a fait un pèlerinage à la main qui a amené une architecture qui est toujours là, qui est appelée l'architecture du Soudan. Donc où les maisons, la température ambiante est toujours maintenue à Tombouctou, à Djéné et partout, nous devons retourner à cette école qui nous appartient.
Alors, Yoroso, quel peut être l'impact du changement climatique sur la santé en général?
Merci, M. Sidibé. L'impact du changement climatique sur la santé, il n'est pas un secret aujourd'hui que tout a changé par le fait que les hommes s'attaquent à tout aujourd'hui. La pluie ne tombe pas comme autrefois. On est en train de tout déboiser et on s'attaque au cours d'eau, et ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme est exposé aux rayons ultraviolets. Donc la couche d'ozone qui nous protège est aujourd'hui trouée, ce qui fait que nous subissons des pleins fouillés, les rayons solaires avec les maladies. Donc, ce que je vais dire par rapport à ce problème, il est temps qu'on change de comportement. Et nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes pratiques qui datent depuis des siècles. Et face au changement climatique, il faut changer de comportement. Et ça fait des années que des campagnes de reboisement sont initiées chaque année, chaque début d'hivernage. Et après l'hivernage, il n'y a pas de suivi. Et les forêts classées qui sont là, qui ont été classées certaines depuis la colonisation, d'autres par les premières, deuxième, troisième républiques, sont aujourd'hui menacées par l'homme. Et on ne fait rien pour protéger ces forêts classées. Si vous prenez par exemple la Faya, qui est un poumon vert pour Bamako, elle est carrément aujourd'hui détruite. Les feux de brousse sont là, les animaux divaguent là-dedans, c'est des parcs, les gens ont commencé à construire. Il y a aussi la forêt classée de Tienfala qui protège Bamako et Koulikoro. Aujourd'hui, c'est occupé par 12 hectares. occupés par des maisons. Je ne sais pas dans 10 ans qu'est-ce que nous allons faire. Il faut voir aussi le fleuve Niger menacé partout par des constructions, les eaux usées, des maisons, les eaux industrielles. La vie aquatique est sérieusement menacée aujourd'hui. Et cette même eau est traitée par la SOMAGEP et renvoyée dans les ménages. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça fait. On ne sait même pas si c'est bien traité ou si c'est pas bien traité. Donc, ce qui fait que nous sommes tous exposés à des maladies aujourd'hui.
Très bien. Alors, nous savons avec le congrès sur l'eau et l'assainissement que le défi majeur en Afrique, ça, c'est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Alors, Paul Nguessan, comment la gouvernance peut-elle influer sur cet impact-là?
D'accord, merci bien. D'abord, comme le dit le confrère, d'abord, il faut d'abord changer de comportement. Parce que justement, le congrès de l'AEA qui s'est tenu à Bamako, qui était un honneur pour le pays d'accueillir une grande rencontre internationale, assainissement et eau, vous voyez que le thème est très éloquent. Parce qu'on ne peut pas parler d'eau sans parler de l'assainissement. Quand il n'y a pas l'assainissement, ne suit pas, l'eau a un problème. Et aujourd'hui, je pense que la politique doit pouvoir réfléchir de telle sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'assainissement de l'eau. Il faudra d'abord, en ce sens, qu'il y ait la bonne prise de conscience. Et d'abord, qu'on reforme d'abord le citoyen malien que nous sommes, qu'on nous reforme, c'est-à-dire que par nos comportements, que le civisme prend le pas sur le civisme et que les autorités vraiment accentuent vraiment les sessions de sensibilisation, tant au niveau des quartiers, des sectes, des collectivités, que les gens puissent vraiment comprendre que il y a urgence, il faudra changer de mentalité, il faudra changer de comportement, il faudra changer certaines pratiques pour ne pas, parce que c'est nous qui sommes exposés au fait, non, les populations. Aujourd'hui, quand on voit un peu l'assainissement, nos quartiers, vous voyez comment est-ce qu'il y a l'insalubrité totale dans les rues de Bamako, dans nos maisons, dans les quartiers. Qu'est-ce que cela est dû à quoi? Alors qu'on ne peut pas prétendre être en bonne santé lorsqu'on vit avec l'insalubrité. Donc, d'une part, les autorités ont leur responsabilité, qui est de sensibiliser, d'apporter l'information. D'autre part, la population même doit aussi savoir que dans un environnement sain, on vit aussi avec une bonne santé. Donc la part est partagée entre les autorités quelque part et les populations pour une certaine prise de conscience.
Très bien. Alors, Amidou Aladji Touré, vous êtes de Mali Média et vous arrivez tout droit de Tombouctou. Comment relever le défi environnemental, particulièrement chez nous au Mali? Vous avez tantôt écouté le docteur Touroula par rapport à certaines situations.
Oui, merci Monsieur Sidibé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment précaire ce que nous vivons. Dire que le défi environnemental est perçu d'une façon défavorable par les citoyens, par ces populations qui sont vraiment les démunis d'abord. Parce que si on fait un état des lieux, nous voyons quand même que tout le monde est en train de se déplacer vers les centres urbains. Et dans ces centres urbains, il y a une concentration de ceux qui doivent être dans les champs, de ceux qui doivent être sur les bordures des rivières, de ceux qui doivent protéger le cours d'eau, de ceux qui doivent planter des arbres pour vraiment que nous puissions lutter contre cette avancée du désert qui est indépendant vraiment de notre de la volonté humaine. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect est que lorsqu'on parle de l'environnement, le citoyen lambda ne se sent pas concerné. Il pense que c'est une affaire des intellectuels. Maintenant, c'est aux intellectuels, et notamment aux politiques, d'aller vers ces citoyens pour mes confrères l'ont dit, pour les amener à un changement de mentalité d'abord, pour que eux aussi, ils s'approprient. Et en premier lieu, et l'impact du changement climatique. C'est vrai qu'ils l'ont constaté, mais pour eux, c'est la providence. Alors qu'ils sont acteurs, alors qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la protection de l'environnement et dans la préservation quand même de ce système qui est en train vraiment d'être très très défavorable à la vie humaine, d'autant plus que le frère vient de le dire, la couche d'ozone est dégradée. Donc nous avons constaté ces derniers temps des maladies que nous ne connaissions pas, telles que les maladies des ORL, tout ce qui concerne la respiration et puis les yeux. vieux. C'est quand même des maladies de la peau, voilà. C'est des nouvelles maladies que nous ne connaissions pas. Et tout ça, je pense que c'est la dégradation de la couche d'ozone qui amène ça. D'où la prise de conscience urgente, vraiment, des citoyens.
Ok, une réaction rapidement.
Voilà. Ce que je voulais ajouter à ça, il faut des initiatives. Et l'exemple que je vais donner, c'est les mines que vous voyez ici. Yirinukunamani, c'est un arbre qui résiste à la sécheresse. Et c'est lors d'une visite du président Fémodbo qui est en Chine, qu'il a amené cet arbre avec lui parce que, en disant que le Mali est un pays sahélien et les déserts avancent chaque année, il serait bon de planter cet arbre et ça va amener à lutter contre la désertification. Partout où vous partez au Mali, Gao, Tombouctou, jusqu'à Kidal, vous allez trouver cet arbre. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Si on avait planté cet arbre...
Il y a l'anacarde là aussi qui suit.
Voilà, un reboisement conséquent avec les mines. Nîmes, là, je crois qu'on allait, aujourd'hui, vraiment, on allait être dans un pays couvert, vraiment, qui serait à l'abri un peu de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il n'y a pas de suivi. Même les reboisements que nous voyons, Chaque année, c'est le tapage. Et après, il n'y a rien. Sous ATT, il y avait combien de ministères? 20 ministères. On a alloué à peu près 1 hectare à chaque ministre. Il y a eu un tapage autour de ça. Tout le monde a planté des arbres. Et après, aujourd'hui, allez-y sur le constat et vous allez trouver qu'on a construit des maisons sur ces parcelles.
Ok. Mamadou Diadié est au téléphone avec nous. Alors, est-ce que vous avez un avis complémentaire pour comment relever le défi environnemental au Mali?
Bien sûr, M. Sidibé, bonsoir à vous et bonsoir à tous mes confrères qui sont avec vous dans le studio. Je suis vraiment désolé de ne pas être sur le même plateau que vous. Et je leur souhaite à toutes et à tous quand même une très bonne fête de la radio, parce que nous venons de célébrer la Journée mondiale de la radio. Pour revenir maintenant à votre sujet, toute la réunion à l'homme, c'est l'homme qui, en appartenant à un écosystème, est en train de tout détruire. L'homme a tout déséquilibré. L'homme, en cherchant à satisfaire ses besoins illimités, est en train de s'accaparer de toutes ses recherches, ressources qui sont limitées. Et dans la satisfaction de ses besoins, il y a eu une mauvaise répartition de ces ressources naturelles qui sont à la disposition de l'homme. 15%, comme l'avait défini Pareto, s'accapare de 80% de ses ressources et les 80% se contentent de 15% de ses ressources. Et dire également que l'homme, depuis sa création, Malthus l'avait dit, un éminent économiste, que nous, on croit d'une manière géométrique et nos ressources se croient d'une manière arithmétique. Donc l'homme, dans son comportement, doit revoir encore, sinon, en détruisant tout, il est en train de s'autodétruire. Donc moi, je vais résumer cette première partie en vous disant tout simplement que réellement, l'écosystème est attaqué par l'homme et cette attaque-là est en train de se retourner contre l'homme lui-même. Et si nous ne faisons pas attention, ces ressources-là ont tendance à disparaître et nous allons disparaître avec ces ressources.
Mais justement, Monsieur Sako, à propos de satisfaction des besoins énergétiques, donc nous venons de recevoir un financement pour la construction d'une centrale électrique à Sirakoro, ici tout près, mais ça doit fonctionner avec des fioles lourds. Et d'après les spécialistes, la transition énergétique renouvelable est bel et bien possible, mais où se trouve le blocage? Pourquoi aller vers le fonctionnement avec des fioles lourds, étant donné qu'on peut aller avec les énergies renouvelables?
Toutes les questions de calcul économique, c'est là qui vous finance et qui n'ont pas leur intérêt à ce que nous minimisons nos coûts et maximiser nos profits. C'est là-bas de soi qu'ils aillent de l'autre côté. Toutes les questions de gouvernance, toutes les questions d'intérêt, et c'est ce qu'il faut voir. Nous-mêmes, nous connaissons aujourd'hui nos besoins. On doit chercher, indépendamment des autres, à satisfaire nos besoins.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau à propos du forum de la presse avec nos confrères Yorosso de l'Inter de Bamako, Paul Nguessan de Mali Horizon, Amidou El Hadj Touré de Mali Média et Mamadou Djadje Sako de RFM. À propos de la transition énergétique, il y a une réaction? Oui, allez-y rapidement, Paul Nguessan.
Justement, je pense que ce que Sako vient de dire, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais je pense qu'il ne faudra pas aussi voir seulement que les partenaires nous imposent. Je pense que ce n'est pas une affaire des partenaires qui imposent, ça dépend d'une vision politique. Hein. Et quand cette vision politique est là, l'État essaie de voir le juste milieu, ce qu'il peut, on peut faire pour vraiment apporter un plus à la nation. Aujourd'hui, c'est vrai que les énergies renouvelables sont là, mais est-ce que c'est une renouvelable que nous sommes en train de vouloir adopter par rapport à l'électricité actuelle? Aujourd'hui, c'est avec le fil. Si on pense que le fil peut faire l'affaire par rapport à un central pour donner une électricité à une localité du Mali, l'État a vu d'abord les conséquences des pesanteurs avant de s'engager dans cette aventure. Donc ce n'est pas forcément les partenaires qui imposent, mais c'est dû par rapport à certains contextes qui permet ou bien certains la facilité. L'autorisation, mais l'acquisition facile de ces produits-là, qu'on tient compte de tous ces enjeux pour pouvoir vraiment se lancer dans un projet. Et surtout, ce qui concerne l'électricité, il faut savoir que c'est un domaine très délicat. Aujourd'hui, on veut partir aux énergies renouvelables, mais aujourd'hui, vous voyez, même jusqu'à là, le Mali, qui est un pays continental avec le soleil que Dieu nous a donné, on en a même de la peine même à démarrer déjà avec les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'on trouve que les appareils qu'il faut sont chers, c'est coûteux, alors que le citoyen lambda a besoin de ça pour s'éclairer. Donc moi, je pense qu'il faudra que l'État pousse un peu la réflexion, parler un peu plus loin, pour voir réellement, ne pas seulement satisfaire une masse, mais de voir comment est-ce qu'on peut satisfaire la grande majorité de la population pour qu'ils puissent quitter au moins au 21e siècle. C'est inadmissible qu'au 21e siècle encore, des localités, même juste à 20 km de Bamako, soient encore dans le noir. Et donc, vous voyez que ça fait, c'est assez aberrant.
Okay. Deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous irons chercher les terroristes partout où ils se cachent. La déclaration est du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga qui effectuait sa première visite nationale à Mopti, région confrontée à des attaques terroristes. Le Premier ministre a annoncé la tenue du premier tour de la présidentielle pour le 29 juillet 2018 pour Soumaïlou Boubey Maïga. Sans ces élections, il n'y aura pas de base juridique pour exercer le pouvoir. Alors, nous allons écouter ce son.
Pour son premier déplacement à l'intérieur du pays, le Premier ministre a choisi Mopti, une région du centre du pays où sévissent des groupes djihadistes. Vendredi dernier, plusieurs civils tous des forêts ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans la région. Pour le Premier ministre, ceux qui s'adonnent à ces actes sont des lâches.
Nous sommes opposés à des gens qui nous mènent des actions de lâcheté. Que c'est de la lâcheté que d'aller se cacher pour poser des mines sur le passage de femmes, d'enfants, de gens, de paisibles populations qui vont sur les marchés pour les tuer. Donc c'est des gens qui sont incapables de se battre à visage découvert. Ce sont des bandits, ce sont des voleurs, et ce sont des mercenaires qui se sont mis au service des groupes terroristes, au service des mafieux.
Le chef du gouvernement promet de traquer les partisans de la violence. Selon lui, c'est le moment pour chacun de choisir son camp.
Nous irons les chercher partout où ils se cachent. Nous allons les rechercher, les neutraliser ou les déférer devant nous. Et nous mettrons tous les moyens dont nous disposons pour parvenir à cet objectif. Et ce que je peux dire pour nos concitoyens, c'est que c'est le moment aussi pour chacun de choisir son camp. Parce que tous ceux qui ont des informations peuvent aider nos forces à combattre ces bandits-là. C'est le moment pour eux de le faire.
Le Premier ministre s'engage à mener une lutte sans merci contre les groupes armés terroristes dans la région. Pour ce faire, un plan de sécurité intégré des régions du centre a été adopté. Sa mise en œuvre a déjà commencé, selon Soumaïlou Boubey Maïga.
Le gouvernement a élaboré le programme, le plan de sécurité intégrée de la région du centre. Nous avons décidé, pour assurer la sécurité des populations, de déployer progressivement depuis la semaine passée, et cela va s'étendre sur les semaines à venir, un effectif important de forces armées et de sécurité, de manière à ce que il n'y a pas un mètre carré, un kilomètre carré de cette partie de notre territoire qui échappe à notre contrôle.
Toutefois, Soumaïlou Boubey Maïga a affirmé la création d'un cadre de dialogue pour rassembler tous les Maliens, même ceux qui se sont ralliés aux terroristes et qui acceptent de renoncer renoncer à la violence. D'autres annonces ont été faites par le Premier ministre, notamment l'introduction de l'enseignement coranique dans le système éducatif national et la transformation des écoles communautaires en écoles publiques.
Ok, merci Idrissa Sako. Alors Mamadou Diadié Sako, votre avis sur ces propos du Premier ministre ?
Bon, d'abord, je vous rappelle, M. Sylvie, que je ne suis pas d'abord un journaliste gouvernemental. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Ok.
Certains de nos confrères bien vrai qu'ils sont dans le privé et travaillent pour ce gouvernement. Bon, ce que je retiens de cette visite, d'abord.
Non, c'est bon, on continue.
Donc, ce que je retiens de ce voyage, en tout cas, il a été vraiment explicite. Explicite à tel point que c'est une déclaration comme un couteau à demi tranchant. À partir du 29 juillet, s'il n'y a pas élection, Ibrahim Boubacar Keïta est le président de la République de Mali. Et ça, c'est clair et net. Et personne d'autre également, ni un autre candidat potentiel ne pourra plus se réclamer président de la République. Donc ça demande à réfléchir. Est-ce que réellement, lui, en tant que le chef de gouvernement, il est en train d'œuvrer dans ce sens-là pour qu'il y ait des élections le 29 juillet 2018? Parce que vous allez voter sur quelle base? Donc le mieux, c'est d'aller dès maintenant sur des bases de préparatifs d'une transition apaisée, concertée. Et ce que je retiens également de sa déclaration, le fait de dire que lui, il attend 2018. Dans le premier gouvernement de Ibrahim Boubacar Keïta, si je ne me trompe pas, il a été le ministre de la Défense quand même. Si lui, il attend 2018 pour aller traquer les ennemis du Mali, je dis qu'on arrête je ne sais pas quel qualificatif de donner, qu'on arrête de se moquer des Maliens, quoi, enfin. C'est comme ça que je dis. Qu'on arrête de se moquer de lui. Il attend 2018 pour aller chercher ses ennemis du Mali et les détruire. Où est-ce qu'il était là pendant ces 4 dernières années? C'est la question que moi je me pose, M. Sylvie.
D'accord. Alors, Amidou Eladji Touré, alors, votre avis, est-ce que ça veut dire qu'enfin le Premier ministre il dispose des moyens pour mener son combat?
Bon, disposer des moyens, je pense que le combat n'est pas un combat directement dédié au Premier ministre. C'est un combat de tous les Maliens. Et il a appelé tous les Maliens à le rejoindre. Il a appelé tous les Maliens à œuvrer de telle sorte que nous puissions venir à bout de ce mal qui est ce terrorisme. Il a aussi appelé les uns et les autres quand même à choisir leur camp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire du Mali a évolué. Nous ne sommes plus à un moment où nous avons des rebelles que nous connaissions qui sont là face à nous. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique où on n'est pas à visage découvert. On ne connaît pas à qui on a affaire. N'importe qui peut être l'ennemi. Donc, l'information de la communauté, des populations est capitale dans cette lutte que nous sommes en train de mener. D'où le Premier ministre a dit qu'il faut vraiment choisir son camp, mais
choisir son camp, c'est à propos des hommes politiques ou bien il s'agit...
Non, il s'agit bel et bien de ces gens qui sont en train de collaborer en quelque sorte avec les djihadistes. Donc, à eux maintenant de choisir leur camp. Et si le Premier ministre Amopti a dit aujourd'hui que nous allons traquer ces bandits, nous allons traquer ces malfrats, nous allons traquer et ces voleurs et autres qualificatifs, c'est qu'il a la confiance quand même que la force du G5 Sahel est en train de se mettre en place et est en train de combattre ce mal qui est en train quand même de gangréner surtout la partie centre et nord de notre pays. Donc moi je pense aujourd'hui il nous revient de lire entre les lignes, de la déclaration du Premier ministre et d'œuvrer chacun en sa position, chacun en son domaine professionnel, d'œuvrer pour que vraiment le Mali soit engagé dans le plan de sécurité et
Paul Nguessa, votre avis sur ces propos du Premier ministre?
Moi, je pense que le Premier ministre fait de la dilation. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de « il faut aller chercher l'ennemi, il faut faire ceci », non, il faut d'abord qu'on soit réaliste et qu'on soit honnête. On a signé l'accord de paix d'Alger pour l'accord de paix, que cet accord soit mauvais ou bon, au moins c'est quelque chose qui nous permet de discuter. Il faudrait d'abord qu'aujourd'hui, on puisse vraiment aller à l'essentiel. Nous connaissons qu'il y a des groupes signataires de l'accord d'Alger que nous connaissons, qui sont là avec qui nous discutons. Il y a des groupes non signataires qui sont armés, qui sont là aussi. Il y a des groupes de bandits qui sont là, qui pullulent dans ces régions-là. Tant qu'on ne va pas partir vers le processus de DDR, démobilisation, démobilisation, réinsertion. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire, là, ce que le PM est en train de dire, c'est comme une poudre. Parce que les gens ne vont, tant que les gens ont des armes en main, ils feront ce qu'ils voudront de ces localités-là. Il faudra qu'on puisse avoir le courage de dire, bon, écoutez, on connaît les gars qui ont signé l'accord d'Alger. On connaît les groupes signataires qui sont non membres signataires de l'accord d'Alger. Il faudra qu'on discute avec ces gens-là. Il faudra qu'on leur dise, bon, écoutez, maintenant, il est temps qu'on puisse partir. Il faudra qu'on enlève les armes. Il faudra qu'on puisse calibrer les armes. Il faut qu'on sache également que l'armée malienne puisse se déployer, mais au moins qu'on puisse sécuriser ces zones-là. Tant que les gens ont encore des armes, vous voulez qu'on puisse aller à la paix? Comment? Vous voulez que les tuyaux vont cesser? Quand on parle de guerre asymétrique, c'est parce que le terrorisme, c'est pas maintenant. Ça fait maintenant combien d'années on est dans cette guerre de terrorisme? Il faut s'adapter à l'évolution de la situation. C'est vrai que c'est bien beau de dire ouais, il faut construire son camp, il faudra qu'on va traquer les bandits jusqu'à là, mais pour traquer les gens, il faut des moyens. Il faut des hommes. Est-ce que nos soldats, c'est vrai, on dit les femmes sont en train de monter en puissance, en chapeau, on laisse un chapeau, mais est-ce que dit, moralement, les gens vraiment sont prêts pour faire face à l'ennemi, comme eux-mêmes disent que l'ennemi est invisible. Donc, cette collaboration de la population ne peut pas avoir lieu tant que les gens, les groupes armés ont encore des armes, c'est impossible.
Monsieur Rousseau, un avis complémentaire?
Ok, merci. S'il avait fait cette déclaration à Kidal, ça allait vraiment être du baume sur notre cœur.
Il n'a pas été à Kidal.
D'autant plus qu'il a fui le voyage de 2014. Donc, revenons au fait. Donc, en disant qu'il va traquer les ennemis partout où ils se trouvent, nos ennemis partout où ils se trouvent, cela veut dire qu'il a les moyens de sa politique. Et arrivé à ce niveau, il est qualifié de stratège et d'homme de réseau. Donc je pense qu'il va mettre à la disposition du Mali son réseau et sa stratégie pour débloquer la situation. Quand même, la rébellion de 90, quand même, il a beaucoup joué dans cette rébellion en créant le Ganakoui, qui a beaucoup pesé sur... dans la balance pour qu'on arrive à mettre fin aux hostilités. Parce que les MPA et ses affiliés, Zavidé, étaient parvenus à prendre presque tout le nord. Donc, quand même, la création du Ganakoué a été salutaire à l'époque. Mais le contexte a aujourd'hui changé. Ce qui est sûr, sa déclaration peut rassurer un peu. Parce que là, le centre est sérieusement menacé aujourd'hui. Sérieusement menacé, les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Et la population aussi est menacée de famine. Donc il a annoncé 700 000 tonnes de céréales qui vont arriver. Je crois qu'avec tout ça, la population sera rassurée un peu. Mais il faut qu'on se donne les moyens. Moi, je ne compte pas sur les forces étrangères pour reconquérir les zones occupées par les bandits. Hein. Les forces étrangères qui sont là, que ce soit les G5 Sahel, la Barkhane ne vont jamais se battre pour le Mali. Il faut qu'on donne les moyens nécessaires à notre armée, okay, quel qu'en soit le prix à payer.
Donc, d'une visite à une autre, le Premier ministre a Mopti, mais le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est à Koutiala et Ibeka pose la première pierre d'un hôpital. Et les anciens travailleurs de l'UICOMA, ils disent la santé, c'est bon, d'accord, mais ils ont des réclamations. C'est qu'on puisse reconstituer l'UICOMA et qu'on puisse mettre les anciens travailleurs dans leurs droits. Est-ce que le moment est bien choisi pour une telle annonce?
C'est une campagne présidentielle déguisée, une campagne électorale déguisée, et qu'il entend maintenant. Donc, Koutiala, c'est sa ville natale. Et il est parti les mains pleines, mais un hôpital de deuxième référence, inauguration d'une station de pompage ou de traitement d'eau, une piste rurale qui est salutaire, qui va quand même relier les zones de consommation aux zones de production. Ça, quand même, c'est salutaire. Mais ce que je déplore un peu, c'est le côté folklorique lors de ces visites. Vous voyez, durant une semaine, c'est les écoles, les cours sont perturbés au niveau des écoles pour préparer l'accueil du présent, alors que nous venons de sortir d'un mois de grève et plus des enseignants. Donc quand même, il faut laisser l'école à l'abri de ses soubresauts. Et si la visite, comme vous l'avez dit, si le président avait annoncé à Koutiala la réouverture des usines Ikouma, je crois qu'il allait être applaudi des deux mains. Parce que ce que Koutiala attend aujourd'hui, c'est la réouverture des usines Ikouma. Koutiala ne vit que de ces usines. Quand ces usines ont été fermées, C'était pratiquement la mort programmée à Kuchala et à Kulukuru. Et ça continue aujourd'hui. Même tout ce que le plan social qu'on avait prévu pour les travailleurs, rien n'a été fait. Jusqu'à présent, c'est les mouvements de protestation par-ci, par-là. Voilà, c'est ce que nous voyons. Et le gouvernement intervient pour dire que voilà, ils ont satisfait. Et le lendemain, c'est les anciens travailleurs qui sortent avec des pancartes pour dire qu'ils n'ont pas été mis dans leurs droits. Moi, je crois que le président avait promis lors de sa campagne de 2013 qu'une fois arrivé au pouvoir, qu'il allait s'attaquer à ces problèmes et donner espoir aux populations de Kuchala, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Ok, Sako, rapidement, est-ce que vous pensez que le choix du moment est bon pour les travailleurs de l'UQOMA?
De toute façon, il est libre de donner son voyage comme il le faut, mais à condition qu'au moins, quand même, qu'il accepte d'aller à Kuchala dans sa ville natale, soit par deux dates, ou bien au moins, quand même, par la route. Mais quand il va à Kuchala par avion, ça n'est pas désiré. Maintenant, parlons du contexte. Et pour, si vous me permettez, parce que je n'ai pas eu le maximum de temps pour réagir à ce que tu disais, guerre asymétrique, guerre asymétrique. On en a tellement entendu que je suis d'accord avec Paul Gessa, que ces éliminations, ils ne sont pas encore connus de manière, c'est encore grave pour nous. Revenir maintenant à cette visite du président de la République, et ça me fait penser à l'interview qu'il avait accordée à nos confrères de El-Azhira. Quand un président de la République n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité à donner à son peuple, c'est vraiment grave. Et s'il faut faire des pompages par-ci par-là, on organise des spectacles pour ça, c'est vraiment trop. Et ce qui est très 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 grave également, à chaque fois que ce voyage-là sont effectués, on draine nos enfants avec eux. Moi, je ne vois pas que réellement que la campagne soit encore ouverte. Comme moi, je ne suis pas journaliste présidentiel, je disais tout à l'heure que je ne suis pas journaliste gouvernemental, je ne suis pas non plus journaliste présidentiel. Mais ce que mes confrères de la radio Kaira de Kuchala m'ont dit, c'est vraiment très grave. Parce que Kuchala s'attendait, c'est bon d'avoir un hôpital, c'est bon d'avoir, mais ils attendaient à d'autres choses, et vraiment plus que ça. Et c'est ce qui ne leur a pas été donné. Donc le président doit réellement voir sa politique pour satisfaire et soulager ses populations.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Et retour donc sur ce plateau avec nos confrères Yoroso Inter de Bamako, Paul Nguessan de Mali Horizon, Amidou El Hadj Touré de Mali Média et Mamadou Djadje Sako de RFM. Plus de 130 milliards de francs CFA, c'est le budget nécessaire pour au financement des besoins humanitaires d'urgence d'1,5 million Maliens en 2018. Le plan de réponse humanitaire a été présenté par le Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU au Mali, papier de la rédaction du studio Tamani.
Plus de 4 millions de Maliens ont besoin d'une assistance humanitaire en 2018, dont 1,5 million dans une situation d'urgence. Les organisations humanitaires recherchent plus de 130 milliards de francs CFA pour apporter une réponse à cette urgence. Ce fonds sera reparti comme suite: 57% pour les besoins en matière de sécurité alimentaire et nutrition, 11% pour la protection, 10% pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, 8% pour les urgences sanitaires et 8% pour l'éducation. Le plan de réponse humanitaire présenté hier vise trois objectifs essentiels. Apporter une assistance humanitaire aux personnes les plus vulnérables dans les zones affectées par la crise, renforcer l'accès des personnes vulnérables aux services de base et enfin renforcer les moyens de subsistance et la capacité de résilience des plus vulnérables ainsi que la réparation aux urgences. Selon la coordinatrice de l'action humanitaire au Mali, les organisations humanitaires restent mobilisées aux côtés du gouvernement du Mali. Cela dans le but de fournir une assistance coordonnée aux populations affectées en vue de sauver des vies et préserver la dignité humaine. En 2017, celles-ci ont réussi à assister plus d'un million de personnes grâce à la générosité des partenaires techniques et financiers, alors qu'elles n'avaient pu mobiliser que 44% des fonds requis.
Alors, Amido El Hadj Touré, votre avis sur la mise en œuvre de ce plan de réponse humanitaire?
Bon, moi, je pense que ce plan est salutaire parce que pour quelqu'un qui vit ou qui est très souvent dans la zone nord et centre de notre pays, qui sait combien nos populations sont affectées par l'insécurité et qui sait combien ces populations sont affectées par le changement climatique, la mauvaise pluviométrie et le manque de routes pour créer vraiment c'est un manque à gagner et vraiment c'est très salutaire ce plan de réponse là aujourd'hui pour nos populations.
Okay. Alors Paul Nguessam.
D'accord, moi je trouve que c'est comique quoi tout ce qu'on fait là, c'est vraiment comique parce que je ne peux pas concevoir que un pays comme le Mali qui a la chance d'être traversé, le fleuve Niger traverse le Mali du sud, en tout cas le Mali a pris la plus grande partie du fleuve Niger, c'est bizarre avec l'office du Niger. Et qu'aujourd'hui, avec tout ce que Dieu a donné comme un atout cadeau au Mali, qu'on vient de dire encore qu'il y a l'insécurité alimentaire, que les gens souffrent, qu'il faut assister les gens. Assister les gens comment? C'est beau de dire qu'on assiste, on fait des milliards, mais est-ce qu'on les assiste réellement? Si on assistait les gens, les plans d'urgence alimentaire depuis, on ne serait pas là aujourd'hui. Il faudra qu'on pose le problème qu'ils ont. Il faudra changer de mentalité. Il faut un leadership de gouvernance. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste dans Bamako, dans les bleus fruités, pour dire ouais, il faut apporter du riz aux gens. Non. Les gens qui sont dans la région du Nord du Sud ne sont pas des mendiants. Ils ne sont pas nécessiteux. Ils demandent seulement qu'on puisse les encadrer, qu'on puisse les accompagner pour qu'ils puissent produire. Parce que c'est le désert, on dit c'est le désert. Non, mais le désert, on produit. C'est des zones agricoles, par ici. Il faut seulement changer de politique. Il faut être raisonnable avec nos populations. Ne soyons pas Bamako pour faire croire que ces gens sont nécessiteux. On fait de ces populations-là un fonds de commerce. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter cela. Il faut que le fleuve du Niger puisse vraiment nourrir le Mali. Il faudra qu'on puisse exploiter le fleuve, le cours du fleuve Niger pour des fins utiles pour la population. Aujourd'hui, on va dépenser des milliards. Demain, d'autres milliards. Mais les gens sont toujours en insécurité alimentaire. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut enrichir une catégorie de personnes ou parce que réellement on pense que la souffrance des gens, ça doit être montré à l'opinion internationale pour faire croire qu'il y a une certaine misère au Mali? Non, il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, les dirigeants doivent être honnêtes avec eux-mêmes pour savoir qu'on n'a pas besoin de faire de tapage pour dire que les gens sont en train de souffrir au Mali. Pour un pays qui a tous les atouts, je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine.
Mais comment voyez-vous la contribution de l'État malien dans cette mise en œuvre?
Mais l'État fait son effort parce que, pour preuve, le gouvernement vient de prendre 15% pour donner à l'agriculture. Les sont subventionnés. Tout ceci est beau, mais il faut un suivi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec nos ingénieurs agronomes qui sont assis à Bamako dans les bureaux fêtés, il serait mieux qu'ils descendent sur le terrain pour aller encadrer ces paysans-là, leur donner des conseils, les encourager, les accompagner pour que l'exode là, vers la ville cesse et que réellement qu'on puisse faire une politique agricole où le paysan puisse jouir de ce qu'il plante, le paysan puisse jouir de sa récolte. Et non de faire du paysan une personne nécessiteuse qu'on doit toujours assister.
Ok. Mamadou Diadié, oui, allez-y rapidement.
Je voudrais réagir à quelque chose. Que oui, le fleuve comprenne quand même que même si nous avons les atouts, il faut d'abord la maîtrise de l'eau. Nous avons des zones qui sont vraiment très, très, très arides. Et souvent, nous sommes dans des zones aussi qui sont vraiment sèches, où il n'y a pas une goutte d'eau. Pour déporter vraiment l'eau dans ces zones, il faut pouvoir maîtriser cette eau. Premièrement. Deuxièmement, la réponse humanitaire n'est pas seulement qu'alimentaire. Souvent, il y a l'appui aux personnes démunies.
Il y a une grande partie.
Une grande partie. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a aussi l'appui à ces personnes qui manquent de moyens de déplacement en cas de maladie, qui sont transportées d'urgence. Que les partenaires et autres vraiment assistent. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre à contribution. Je suis entièrement d'accord avec lui, quelque part, qu'il faut vraiment une gouvernance. Il faut vraiment une gouvernance pour améliorer ça. Mais, sachons que jusqu'à preuve du contraire, le Malien et l'Africain demeurent ce qu'il est.
Ok, d'accord. Rapidement, Mamadou Diadié Sakho, votre avis par rapport à la mise en œuvre de ce plan de réponse humanitaire?
En écoutant mes confrères, Diadié me donne l'impression comme le plus malien qui est même sur Touré. On dirait que Touré n'est même pas au courant des réalités maliennes. C'est salutaire, oui, salutaire, mais c'est insignifiant. Comme Diadié est en train de vous dire.
Mais c'est pas salutaire?
Vous prenez 130 milliards pour 1 million 500 000 Maliens sur les 16 millions qui vivent dans la même condition. Et ce que Paul Guétan veut te faire croire, vous prenez tout simplement un plan de défense stratégique de la nation, que IDK lui-même, en étant à l'Assemblée nationale, a élaboré dans un pays comme le nôtre en pleine guerre. Vous prenez la loi 04051, le Mali n'a pas besoin de 530 milliards, le Mali pourra même donner des milliers et des milliers de milliards à des pays qui prétendent venir nous aider. Donc, Guétan, apparemment, il va falloir que tu aides ton confrère malien à comprendre les réalités maliennes. Et que salutaire, salutaire, mais c'est insignifiant. Ce n'est rien par rapport aux 16 millions de Maliens qui vivent dans les mêmes conditions que ces 1 500 000 de Maliens à qui on vient allouer ces 130 milliards. Vous enlevez les 10% de ceux-là qui vont gérer ça, ça va rester quoi? Faites les calculs. Chacun de ces Maliens-là aura combien? C'est 130 milliards. Donc, si vous voulez dire que c'est comme ça, si vous voulez soutenir quelqu'un, je suis vraiment désolé. Appliquons notre plan de défense stratégique de la nation, un point un très bas. Qu'on essaie de prendre aujourd'hui le décret d'application de la loi 04051 et le Mali sera le pays le plus en vie au monde.
Ok, ça c'est le fil patriotique qui parle. Alors, Irosso, alors votre avis par rapport à la mise en œuvre de ce plan?
Bon, soyons quand même sérieux. Il ne faut pas que les autres réfléchissent toujours à notre place et nous apporter ce qui ne nous avance pas. Depuis dans les années 1970, la grande sécheresse, nous sommes dans cette urgence humanitaire, ça n'a rien apporté. Comme on le dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut apprendre à pêcher. Nous sommes dans cette situation depuis dans les années 1970 et c'est toujours la même chose. Guissant a touché du doigt le problème, c'est peut-être que c'est la fin du régime, peut-être que c'est une partie du pouvoir, les mécontents qui sont là, on profite de cet argent pour les enrichir, c'est tout. Sinon, c'est sûr que l'aide n'arrivera pas à ces populations sinistrées, ce qui est sûr. Mais il faut que nous ayons une politique digne de ce nom pour faire face à nos problèmes. On a dit 15% du budget alloué à l'agriculture, mais sur le terrain, on ne voit rien. Cet argent, si on avait investi ça dans l'agriculture, il a dit, ça, au niveau du fleuve Niger, lac Fagibine, c'est une zone cultivable qu'on peut cultiver toutes sortes de céréales dans cette zone. Et il y a beaucoup, Kidal que vous voyez, il y a des terres fertiles, des terres arabes. Il y a une année où on a organisé une foire agricole. Vous savez qui a été premier de cette foire? C'est l'ancien gouverneur de Kidal, Agfoni, qui a été premier. Lui, il a laissé la ville de Kidal pour aller s'installer dans son village. Il cultive et il fait l'élevage. Voilà des gens à qui on peut faire confiance. Ça veut dire qu'il y a de la terre et de la terre bonne, de très bonnes terres là-bas. Mais on ne le fait pas. Non, on cherche de l'argent par-ci, par-là, pour une catégorie de gens, pour qu'ils puissent s'épanouir. Voilà. Mais arrêtons ça, arrêtons. Et revenons sur nos problèmes. Nous avons des problèmes ici. Identifiés et hiérarchisons nos besoins pour faire face à ces problèmes. Il a dit, on ne peut pas avoir deux grands fleuves et ne rien faire. Et avoir une grande nappe souterraine d'eau à Kidal, au niveau de Kidal, parce que si vous voyez le sable, il y a des ressources en dessous, le pétrole et l'eau. Il y a l'eau et le pétrole chez nous, on n'arrive rien à faire de ces choses-là. Finalement, où est-ce qu'on va?
Ok, rapidement, une réaction.
Ce que j'allais dire, c'est que le contexte sécuritaire aujourd'hui ne permet pas de cultiver ces zones lacustres, comme il vient d'évoquer le Fagibine, le Horo et autres. La situation sécuritaire ne le permet pas. Donc, tous ceux qui vivent dans cette zone aujourd'hui ont besoin d'assistance humanitaire. Voilà pourquoi.
Mais on parle de problèmes sécuritaires au nord, mais au sud, là où il y a toutes les conditions nécessaires, on voit qu'on s'adonne qu'à l'orpaillage, par exemple, au détriment de l'agriculture.
Oui, mais parce que les jeunes, c'est pas la gouvernance, parce que les jeunes aujourd'hui, la main valide, les bras valides sont en train quand même de laisser l'agriculture, parce que c'est avec des moyens de bord, des moyens vraiment archaïques qu'ils cultivent, qu'ils produisent. Et aujourd'hui, la mécanisation, je suis désolé de le dire, n'a pas porté fruit. La mécanisation de l'agriculture n'a pas porté fruit.
Non, mais tout oublies qu'au fait, c'est la politique agricole qui est mal faite pour que les jeunes laissent l'agriculture pour venir dans
papaya, c'est tout.
Très bien. D'accord, nous disons merci à notre confrère Yoroso de l'Inter de Bamako. Merci à Paul Nguessan de Mali Horizon. Merci à Amidou El Hadj Touré de Mali Média. Merci à Mamadou Djadje Sako de RFM. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été une réalisation de Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Philly Dembélé, régie vidéo assurée par Peting Diara. Je suis Aliou Sidibé et Mohamedou Touré pour la coordination.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.